Bonjour, je suis ravi et flatté que l'orchestre arabo-andalou de Tanger soit revenu passer un moment à la Friche pour cette interview. L'orchestre arabo-andalou de Tanger que nous avons pu voir le jour de la fête de la musique. Je crois que la Friche est honorée de ce concert qui était un grand moment pour la fête de la musique, avec en plus un public qui était venu de tous les horizons de Marseille, c'est-à-dire que toutes les communautés, tous les genres marseillais étaient représentés. Et l'orchestre est revenu, en tout cas une partie de l'orchestre, ils sont quatre. Alors je vais vous les présenter rapidement. Il y a le régisseur, on va commencer par lui parce que généralement on termine par les régisseurs, mais là on va commencer par le régisseur, Filali Jaafar, bonjour.
Bonjour.
Il y a son frère, le docteur Filali Ibrahim, qui lui est musicien et qui joue du rebab, bonjour.
Bonjour.
Il y a aussi le violoniste qui est Tsouli Rachid,
Bonjour.
bonjour. Et Idriss Ismaël, qui est au piano. Bonjour.
Bonjour.
Alors, ce concert, on l'a tous vécu, que ce soit sur les cinq radios, c'était Soleil, Beurre, Grenouille, Gazelle et Galère, j'en oublie pas, voilà. Grenouille, Gazelle et Galère. On l'a vécu ou à la radio ou directement à la Friche. Vous étiez sur scène. Alors, ce concert, quelles sont vos impressions? C'est votre premier concert à Marseille? C'était votre premier concert à Marseille?
Oui, c'est le premier concert qu'on donne à Marseille. L'année dernière, on était à Nîmes, à la cérémonie de clôture des Jeux méditerranéens, donc c'est à côté. Et cette année, on a eu l'occasion de passer à Marseille, mais pour la première fois.
Alors c'est vrai que souvent on fait des interviews avant le concert, et là j'ai la chance de vous avoir après. Comment vous l'avez vécu ce concert? Je sais que pour le public, ça a été un grand moment émotionnel, parce que où on connaissait la musique andalouse, arabo-andalouse, et donc on était ravis, on savait ce qu'on venait voir, ou alors pour toute une partie du public, c'était une découverte. C'était une découverte et ça a été un moment fort, émotionnellement fort. Est-ce que vous, comment vous l'avez vécu?
Bon, je crois que pour l'orchestre, c'était un grand moment, puisqu'on ne s'attendait pas du tout à une telle réaction de la part du public. Bon, l'orchestre a déjà eu l'occasion de jouer pour des communautés étrangères. Il a joué en Espagne, il a joué à Nîmes, mais jamais on n'a eu cette réaction du public. Donc, on était ravis de voir presque tout le public soit danser, soit chanter avec l'orchestre, ce qui a, disons, motivé encore plus l'orchestre.
Cette réaction, on la voit très souvent au Maroc, mais on était surpris de la voir ici à Marseille. Donc, ça n'a pas changé un peu l'ambiance. C'est comme si on était au Maroc, si on jouait dans une ville marocaine.
Et ce que je tiens à préciser, c'est que le public qui était présent ce soir-là, effectivement, il y avait des Marocains, des Algériens, des gens d'Afrique du Nord, mais il y avait aussi beaucoup d'Européens ou de représentants des autres communautés. Et c'est vrai que tout le monde a été emballé. Que ça a
Voilà,
été...
justement, c'est ce qui nous a touché le plus.
Ça a touché tout le monde. On va parler de la musique arabo-andalouse et on va un peu la resituer. Mais en deux mots, on peut dire que c'est, en caricaturant peut-être un peu, mais la musique classique arabe.
Exactement, véridique, oui.
On peut la définir comme ça. Que le public soit aussi chaleureux et se mette à danser dessus, vous recevez ça comment? Parce qu'on n'imagine pas un concert de Bach, Beethoven ici, les gens danser.
Pas
La
du tout.
musique classique n'a pas cet aspect figé comme on peut l'avoir ici avec les...
Je sais, oui, c'est vrai. Façon de jouer, c'est un peu la musique classique, mais l'interprétation laisse quand même les spectateurs participer, donc puisqu'il y a des poèmes. Et peut-être la différence, c'est que de la musique classique, c'est que là, on chante, il y a des poèmes, et donc peut-être c'est ça qui donne au public. Cette réaction.
Avant d'aller plus loin, je crois qu'on va aborder l'aspect historique, parce que la musique arabo-andalouse n'est pas née d'hier ni même d'avant-hier. Elle remonte à...
Si vous voulez, si on revient vraiment à l'origine, c'est une musique bédouine qui est même pré-islamique. Donc, elle revient au tambourin, là, où le poème prédominait. Et c'est vers le 8e siècle, avec l'école de Bagdad, où la musique a participé. Donc c'est là où il y a eu le mélange musique-poème.
Donc ça a voyagé,
Ça a
ça s'est
voyagé.
déplacé
Ça
sûrement avec les invasions.
voilà, avec l'invasion vers l'Andalousie, ça s'est développé en Andalousie, avec la culture arabe et l'esprit occidental.
Il faut peut-être resituer à cette époque, revenons un peu en arrière, 10e, 11e, 12e siècle, c'est le plein Moyen-Âge en Europe.
Oui, exactement, vers 12e, 13e, et elle est venue au Maghreb vers fin 13e, début 14e du siècle avec la chute de Grenade.
Et c'est vrai que l'évolution et les invasions arabes sur le sud de l'Espagne vont apporter les traces qu'on retrouve aujourd'hui en architecture et en musique avec, par exemple...
C'est un art, que ce soit dans l'architecture ou dans la musique.
En Espagne, comme on le sait, il y avait des sultans donc dans les grandes villes, et chacun de ces sultans avait sa propre cour, et bien sûr, il entretenait un orchestre. Et donc, ces orchestres puisaient leurs sources et même leurs chanteurs de l'Orient, soit de Bagdad ou de Damas. Et bien sûr, chaque sultan voulait avoir les meilleurs chanteurs et les meilleurs musiciens. Mais cette musique andalouse a été surtout marquée par l'arrivée d'un maître, Ziryab, je crois qu'il était d'origine perse. Et c'est lui qui a vraiment marqué la musique andalouse telle qu'on la voit, telle qu'on la joue et telle qu'on l'entend aujourd'hui.
L'Espagne de cette époque-là, c'est un mélange de tout un tas de communautés, autant des gens qui viennent de l'Orient que des Européens chrétiens, que les Juifs. C'est un grand vivier de communautés qui, après, avec l'Inquisition, va se disperser et va renvoyer aussi toute cette effervescence culturelle sur tout le bassin méditerranéen. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'après le concert, en discutant, je crois que c'est le docteur Filali qui me précisait qu'il y a eu des rencontres européennes, méditerranéennes de musique arabo-andalouse, où il y avait des orchestres grecs, par exemple.
Exactement, et je sais très bien qu'il y a 3-4 ans, je crois, il se tenait annuellement un festival de musique andalouse méditerranéen où participaient la Grèce, la Turquie, même les 4 pays du Maghreb, la Libye, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, en plus du flamenco espagnol et même la Sicile italienne. Donc c'était presque tous les pays de la Méditerranée qui participaient avec une musique andalouse.
Ça, c'est les suites de l'Inquisition, quand toute cette culture va s'éparpiller à travers toute la Méditerranée.
Oui.
Vous défendez un répertoire qui est classifié, comme on peut avoir ici la musique. Bach, Beethoven, Mozart, etc. Vous le jouez à la lettre, vous n'y changez rien, il n'y a que l'interprétation qui peut varier selon les orchestres. Est-ce qu'on peut revenir sur cette donnée de musique qui est fermée?
Bon, la musique arabo-andalouse se compose de 11 naubas. Une nauba, c'est le tour. Et chaque nauba est composé de 5 rythmes. Là où il y a le psit, qui est suivi de Kraïmonos, puis Ptaïhi et Darsh et Qiddam.
La musique andalouse est répertoriée, donc on n'a rien à ajouter, rien à enlever.
Voilà, exactement.
Donc c'est juste l'interprétation qui change d'un orchestre à un autre. Et ça, c'est un peu grâce à Al-Hayek, c'est un grand maître marocain, qui a créé un manuscrit de la musique andalouse, parce qu'avec le temps, il se perdait. Déjà, ce qu'on joue maintenant en musique andalouse, on trouve plusieurs morceaux qui ne sont pas manuscrits, qui se sont perdus. Donc grâce à Al-Hayek, là actuellement, la musique andalouse, elle est déjà répertoriée et on peut retrouver quand même sur disque CD, toute la musique andalouse enregistrée.
Aujourd'hui, il reste 11 noubas, mais je crois qu'avant, il y en avait plus.
Et voilà.
On dirait qu'il y avait 55 noubas.
55 noubas et donc toute une partie
qui a été perdue parce que la transmission était verbale et là, quand même, actuellement... On préserve ce qui reste.
D'accord. Et donc il y a les ouvertures ou...
Si on peut appeler ça quand même, introduction ou ouverture qui se joue rien qu'avec les instruments.
On a l'impression qu'ils accordent les instruments, que vous accordez les instruments dans les
c'est
ouvertures.
C'est un peu ça, c'est presque un peu ça. De tout ce qui est chouichia comme introduction, c'est instrumental pour justement, ça facilite les accords et tout. Et ce n'est qu'après qu'on entre dans la poésie.
Dans ces périodes de Touchia, si je prononce bien,
oui, exactement.
Est-ce qu'il y a des parts d'improvisation ou même l'aspect accordage ou
pas du tout,
réglage?
Pas du tout. Improvisation peut-être pas, mais il y a de l'individualisation, c'est-à-dire il y a les notes de base, mais ça laisse quand même le libre choix aux instrumentistes de jouer de certaines façons, donc d'ajouter quelques notes ou de trancher, c'est-à-dire... c'est pas si limité comme le classique.
Plus qu'une partition à la note près, il y a une grille.
Et... il y a une base, les notes de base qui sont communes et chacun individualise quand même à sa façon.
Et ça, c'est les seules parties des noubas qui permettent ça ou
non,
tout
non, c'est
de...
dans tout le long de la musique andalouse. C'est ça la particularité quand même de la musique andalouse. C'est pour ça qu'on trouve d'un orchestre à un autre une interprétation différente.
Ah oui, c'est plus, c'est pas que le domaine de l'interprétation, c'est aussi...
façon de jouer.
Façon de jouer.
Chaque noba se joue sur une gamme bien précise et sur un tabac bien précis.
Bon, il y a une autre précision. Pour la musique andalouse, est inspirée par la musique arabe, mais la musique andalouse différencie un peu de la musique arabe parce qu'il n'est pas marqué par le quart de temps. Il n'y a pas de quart de temps. On sait bien que l'influence de la musique arabe s'est étendue jusqu'au Occident, l'Afrique du Nord, après la conquête islamique de l'Espagne. La musique arabe a influencé un peu la musique espagnole, mais aussi la musique andalouse a été marquée un peu par l'influence de la musique européenne, spécialement par la musique espagnole. C'est pour cela qu'on ne trouve pas de quart de temps dans la musique andalouse. Même les rythmes que contient la musique andalouse, on ne peut pas les distinguer bien, très très bien, notamment dans la musique arabe.
Et de l'autre côté de la Méditerranée, ce répertoire est vécu comme une musique sacrée et élitiste, ou est-ce que ça a un côté très populaire?
Bon, il faut dire que il y a quelques décennies, c'est vrai, c'était une musique élitiste, comme elle l'était d'ailleurs en Andalousie et en Orient. Mais de plus en plus, ce qui est bizarre d'ailleurs, si la musique classique, justement, n'est plus reprise par les jeunes en Occident, etc. Au Maroc, c'est tout à fait le contraire. Les jeunes s'adonnent beaucoup à cette musique, et puis elle devient de plus en plus populaire. On joue de la musique andalouse dans les fêtes, dans les mariages, on célèbre des soirées chez des gens pour s'amuser comme ça. Bon, il reste le folklore au Maroc qui est très, très pratiqué aussi, mais surtout dans le monde rural. Mais dans les grands centres urbains, c'est la musique andalouse qui domine.
Et principalement au Maroc, il y a une ville, Tanger, dont à chaque fois qu'on dit l'orchestre arabo-andalou, on y colle généralement Tanger derrière, en tout cas pour ici, c'est le phare. Alors est-ce qu'au Maroc, c'est le phare aussi Tanger ou est-ce que...
Tanger, peut-être, c'est trop dire. Je crois que quand on parle de musique andalouse au Maroc, peut-être même ailleurs, on pense directement peut-être à trois villes reconnues par la musique andalouse. C'est quand même Fès, faut pas oublier, Tanger et Tétouan. Donc là, c'est...
Fès qui est une ville où beaucoup d'immigrés c'est de Cordoue ou de... beaucoup de gens au moment de l'Inquisition.
Voilà, c'est ça.
Je parle oui, d'immigration. Au moment de l'Inquisition, c'est les gens de Cordoue qui sont partis à Fès.
Qui sont partis à Fès, exactement.
C'est ce qui peut expliquer. Mais c'est vrai qu'ici, comme on fonctionne aussi beaucoup par des schémas plus simples, parce qu'on ne connaît pas forcément toujours tout.
L'histoire, oui.
L'image de Tanger qui est juste de l'autre côté, c'est tellement plus facile.
Peut-être Tanger parce que c'est la ville de l'Afrique qui est la plus proche.
Qui est la plus proche d'ici,
voilà,
donc
de l'Europe.
Pour préciser, après au moment de la reconquête chrétienne, les musulmans d'Andalousie se sont enfuis vers le sud du Maroc. Enfin, parce que la reconquista espagnole a touché sûrement les villes côtières. Par exemple, Tanger, Ceuta, Melilla, Oran, vers l'Algérie, vers la Tunisie. Et on sait bien historiquement que l'Espagne a pris beaucoup de villes côtières au nord d'Afrique, le Portugal aussi. Les musulmans andalous qui se sont enfuis de l'Espagne au moment de la Reconquête, ils se sont enfuis vers les villes au sud du Maroc, parce que l'Espagne et le Portugal aussi les suivaient beaucoup. C'est pour cela que beaucoup d'Andalous se sont enfuis à Fès, à Salé par exemple, vers le nord de l'Afrique, l'Algérie, la Tunisie. Mais beaucoup d'eux sont entrés au Maroc.
Donc les grands centres au Maroc, c'est Fès.
Salé aussi.
Tanger et Tétouan. Et c'est pas pour rien qu'on trouve trois grandes écoles, les trois grands maîtres de la musique andalouse au Maroc. Il y a Gaïs de Fès, il y a le feu Moulay Ahmed Loukili, qui a été à Tanger, qui est parti à Rabat pour créer le grand orchestre national, si vous voulez, de musique andalouse. C'est l'orchestre de la RTM, Radio-Télévision Marocaine. Et il y a le grand maître Moulay Witem Samani, donc Si Mohamed Witem Samani, qui est de Tétouan, qui est un Tangérois, mais qui a créé son orchestre à Tétouan.
Votre musique passe régulièrement à la télévision ?
À la télé, pas spécialement, mais surtout dans les centres culturels et tout ce qui est manifestation culturelle, je précise bien. Parce que nous sommes un orchestre de jeunes amateurs, tous des cadres, donc on n'a pas d'aspect professionnel. Et ce qu'on cherche à faire, c'est informer les gens de l'existence de la musique andalouse et surtout dans les domaines culturels.
Le groupe remonte à combien d'années ?
Il va laisser Idriss.
Le groupe, ça fait 9 ans de sa création, 1985. Il a été créé. Il se compose de 10 membres, 10 musiciens, 3 violonistes, 2 percussions, un rebab et un qanoun, et puis un accordéon et un piano, et 2 luths.
On va peut-être parler du rebab parce que le docteur Filali est là. Alors, présentez votre instrument.
Rebab, oui, je sais que pour les Européens, le rebab semble un peu bizarre, mais c'est un instrument qui est à 2 cordes, cordes en boyau. C'est un instrument qui utilise l'archet. Et c'est un peu l'équivalent de la contrebasse, mais avec archet. Donc, c'est un instrument de basse. Donc.
C'est un instrument de basse qui se tient comme vous tenez les violons, c'est-à-dire sur les genoux.
Un peu plus oblique, c'est-à-dire si le violon se tient sur le genou gauche, le rebab est tenu sur le genou droit et un peu plus oblique que le violon. Mais sinon, la façon de jouer, il joue plutôt les notes de base, donc ça fait un peu la basse en musique andalouse.
Est-ce que vous pouvez présenter les autres instruments et en dire quelques mots ?
Oui, le violon. Pour les autres instruments, je crois que c'est un peu commun, à part le luth et le kanoun. Mais sinon, le violon, c'est un peu le violon classique qu'on retrouve en musique classique. Et il y a le violon, bien sûr, 4 quarts, et il y a le violon alto, qui lui aussi, dont les cordes sont en boyau. Il y a le kanoun, qui est un peu la harpe, mais qui se joue sur les genoux, et sinon c'est la percussion aussi, il y a la darbouga et le tar, donc...
Quelques mots sur le tar, parce que...
C'est le tambourin, mais donc, qui est un peu plus petit, qui a un son un peu petit, plus grave, donc c'est tout.
C'est un très ancien instrument,
le tar.
Idriss, vous jouez du piano.
Oui.
Alors, le piano était à l'origine de la musique arabo-andalouse ?
Non, pas du tout. Le piano, c'est de nouveau instrument.
C'est un nouvel instrument.
Oui.
Et est-ce que dans la tradition sur laquelle vous êtes attaché, le piano avait déjà sa place ?
Non, il n'avait pas sa place. À l'époque, il n'avait pas sa place, le piano.
Alors, c'est pour ça que je dis influence peut-être des écoles marocaines. Là, Il y a le maître dont on a parlé, Mohamed Larbi Temsamani, qui est un grand joueur de piano. Et peut-être grâce à lui qu'actuellement, on ne peut pas écouter la musique andalouse en piano parce que il a introduit le... On ne peut pas dire qu'il a introduit le piano. Peut-être on ne connaît pas exactement la date à laquelle le piano a été introduit en musique andalouse. Mais sinon, on ne peut pas parler au Maroc de musique andalouse sans parler du piano de Mohamed Larbi Temsamani, le grand maître de Tétouan.
Est-ce que le fait de jouer le violon sur les genoux plutôt que de le jouer comme on le joue en Europe offre des différences de jeu, permet d'autres choses ou...
Non. Seulement, c'est la tradition. On jouait avant le violon sur les genoux. On joue maintenant la même chose pour garder cette tradition. Mais je crois jouer du violon, comme on connaît partout, c'est mieux. Parce que techniquement, on domine plus le violon sur l'épaule que sur le genou.
Est-ce que ça ne serait pas aussi parce qu'on chante en même temps qu'on joue?
C'est pour cela, je crois que c'est pour cela.
Comme quoi tout peut arriver à s'expliquer. Quand on parle de musique arabo-andalouse, le terme andalou, il est aussi lié à la poésie. Parce qu'on a parlé jusqu'à présent beaucoup de la musique, des instruments, du répertoire. Mais parlons aussi des textes et de cette poésie andalouse.
Je crois, comme a dit Jaffa tout à l'heure, il y a Ziryab qui a apporté beaucoup à la
musique. La poésie apportée, il a apporté avec lui.
Alors le grand maître Ziryab, peut-être grâce à lui que la poésie de la musique andalouse s'est enrichie. Et peut-être c'est là où revient le mot arabo, donc c'était de la poésie en arabe classique. Donc c'est pour ça qu'on parle de musique arabo-andalou, peut-être pour montrer que la poésie est en arabe. C'est de l'arabe classique, à part quelques morceaux, je dirais pas poèmes, qui sont en dialecte et qui se sont introduits dans la musique andalouse. Donc tout le reste est en arabe classique. Donc,
Les poèmes sont étroitement liés à la musique, c'est-à-dire que je sais pas, j'entendais qu'il y avait plus de 1000 poèmes créés et il n'y a que 55, si je ne dis pas de bêtises. Morceaux, il y a 11 noubas encore aujourd'hui.
Oui.
Est-ce que musique et poème sont interchangeables ou est-ce que chaque musique a son poème?
Non, c'est interchangeable. Parfois, c'est interchangeable.
On parle de noubas, c'est peut-être, il faut parler aussi de thème, parce que chaque noubas a un thème. Donc, on retrouve la Gamle El Maya, ce sont des poèmes qui parlent de la vie du prophète. Donc, il y a, ça c'est Maya, il y a Ushaq, c'est le lever du soleil, il y a Maya, c'est le coucher du soleil, donc on trouve dans chaque Nouba un thème bien précis, et toute la poésie de cette Nouba, donc décrit un peu le thème.
Il n'y avait pas un thème, historiquement, pas par heure de la journée?
Exactement, donc on part du lever du soleil, jusqu'au coucher du soleil, donc on retrouve à peu près
tous les
moments de la journée. Et dans l'histoire, chaque musique se jouait en ce moment, vraiment à ce moment précis. Donc le coucher du soleil se jouait nouba du coucher du soleil, c'est-à-dire les mayas se jouaient au coucher du soleil, et le ushaq se chantait donc au lever du soleil. Donc chaque moment avait sa musique, sa propre musique.
Comme dans la musique indienne aussi, on peut retrouver ces moments bien précis de la journée où la musique n'était jouée qu'à ce moment-là. Oh, et oui. Chaque moment de la journée avait sa propre musique. Sur la poésie, revenons un petit peu. Les thèmes abordés, donc c'est le lever du soleil, etc. Voilà. Mais est-ce qu'il y a d'autres thèmes moins, je dirais, descriptifs, entre guillemets?
Oui, on retrouve même avec le quand on décrit par exemple le coucher de soleil, on décrit le coucher du soleil, on décrit aussi c'est-à-dire tout ce qui se fait, même les habitudes et mythes qui se font au moment du coucher du soleil. Donc on retrouve un peu même la vie quotidienne, donc c'est un peu le tout.
Est-ce qu'il est possible d'en dire un tout petit peu plus, par exemple, par rapport au coucher du soleil, de ce qui peut être dit dans une poésie? ou ce qui est abordé, sans essayer de faire une traduction mot à mot, ce qui serait sans intérêt, mais pour situer un peu mieux.
Par le coucher du soleil, on peut trouver des thèmes qui complètent un peu le tableau, c'est-à-dire des poèmes lyriques, par exemple, qui parlent donc de l'amour, et, bon, des thèmes romantiques, et donc tout ce qui peut compléter un tableau, donc d'une soirée au bord de la mer, à contempler le soleil, donc en bonne compagnie, etc.
C'est vrai qu'il faut se rappeler du moment où ont été créés tout ça aussi. C'est un moment où l'Andalousie est plutôt prospère, où il y a un mélange de différentes influences, de différentes religions qui vivent en assez bonne intelligence à cette époque-là, de gens qui aiment la vie, qui aiment le soleil, la mer, qui aiment les plaisirs qu'ils ont directement à portée d'eux, quoi. Et...
Au début, il faut penser aux cours des sultans là qui étaient en Andalousie. Donc, quand on parle des sultans d'Andalousie, instinctivement on parle du vin, de l'amour, et donc tout ce qui se passait dans les cours.
Il y a eu un concert de l'orchestre arabo-andalou de Tanger. Alors, des orchestres arabo-andalou de Tanger, il y en a plusieurs.
Oui, orchestre arabo-andalou à Tanger, il y a plusieurs, oui, c'est vrai. Donc,
bon, il est passé donc avec un orchestre arabo-andalou de Tanger, et il y avait comme chanteur Juan Pena, les Priano. Et le titre s'appelait, alors je n'ai pas l'accent ni la prononciation espagnole, mais la traduction c'était La Rencontre. Ce qui se dit en espagnol, je ne sais pas, elle. Voilà.
Un encuentro.
Et par exemple.
La rencontre entre la musique espagnole et la musique andalouse, marocaine. Mais ce que fait Lévry Rano, je ne crois pas que ce n'est pas la rencontre. Parce que ce que jouait Lévry Rano est purement du flamenco. Et ce que jouait l'autre orchestre, arabo, disons, andalou. C'était la musique populaire. La musique populaire, c'est pas de la musique andalouse. La musique populaire du nord du Maroc est inspirée de la musique andalouse. C'est ça. Mais ce n'est pas de la musique andalouse. Et ils ont coordonné au niveau de la gamme seulement, mais pas au niveau du texte, ni au niveau d'autres. De la poésie, ils ont coordonné seulement au niveau de la gamme. C'est-à-dire que quand les Brichanos chantent, ils parlaient d'autres choses. Quand les autres chantaient, ils parlaient d'autres choses. Il n'y avait pas de coordination. Ce qu'on a coordonné, c'est la gamme musicale seulement. Alors, on ne voit pas ici. Se rencontre.
Il n'y a pas de point commun.
Il n'y a pas de point. La gamme, peut-être, mais le rythme, la poésie, ne vaut pas ce que.
Mais vous pouvez faire une rencontre, par exemple, vous, avec des chanteurs flamenco.
Mais il faut travailler durement pour coordonner.
Il faut appeler les choses par leur nom, je crois que. Dire que Lévry Rano a fait, il appelle ça encuentro, c'est-à-dire rencontre de la musique européenne avec musique arabe, et appeler ça musique andalou, je crois que c'est appelé andalou à tort, parce que Lévry Rano a pris de la musique populaire du Nord, qui est très influencée par la musique andalouse, et là je parle surtout du chanteur Shraga, qui s'est inspiré beaucoup de la musique andalouse pour faire la musique populaire du Nord. Donc Lévry Rano a profité de ça pour faire un mélange de musique du Nord populaire avec la musique. Donc peut-être c'est appelé à tort musique andalou.
Mais en tout cas, je sais que si ce n'est pas une vraie rencontre, ça en tout cas permis que tout un public en Europe découvre l'idée de la musique arabo-andalouse et peut-être aille plus loin après aussi. parce que comme beaucoup de constructions world music entre parenthèses, ça ouvre des portes dans lesquelles certaines personnes peuvent...
C'est sûr que c'est une très bonne initiative, mais quand même, ça laisse la porte ouverte quand même à tous les amateurs de travailler durement pour faire une musique.
Je crois que le public européen doit premièrement entendre et connaître la musique andalouse avant de juger.
Voilà, justement.
Oui, mais...
Avant de voir leur rencontre, il faut avoir une idée de ce que c'est la musique andalouse
pour pouvoir faire, le mélange.
Mais il se trouve aussi qu'en Europe, la musique arabe s'est toujours écoutée difficilement. Il y a une certaine toujours répulsion ou difficulté. Il y a qu'à voir même avec le phénomène raï qui a pris naissance ici, comment les radios ont du mal à en programmer. C'est vrai que c'est un handicap à passer aussi.
Mais je crois qu'il n'y a aucune comparaison à faire entre raï et musique andalouse. On parlait de...
Non, je suis totalement d'accord.
Du pop et du rock et de Beethoven et de Mozart.
Je dis juste que pour l'oreille qui n'est pas forcément habituée à ces instruments, à ces rythmes,
Moi, je crois que c'est un peu faute des Européens de ne pas être très ouverts sur les autres musiques.
Totalement
tout simplement,
d'accord.
Parce que si la musique classique est très aimée par les Maghrébins et tout, je sais pas, c'est question d'ouverture vers les autres musiques et tout. D'ailleurs, c'est pas le cas que pour la musique andalouse, c'est même pour la musique asiatique. Je connais pas beaucoup d'Européens qui écoutent de la musique japonaise ou coréenne, donc...
Est-ce que vous voyez d'autres choses?
On arrête.
Parce que, pour pas vous prendre trop de temps. Oui, on peut peut-être dire au revoir, après on le remontera. En tout cas, moi, je suis ravi de vous rencontrer pour une deuxième fois. La première fois, c'était le 21, jour de la fête de la musique. C'est aujourd'hui aussi, après cette interview, c'est un grand plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir sur Marseille, ou à La Friche, ou dans d'autres endroits, parce que le 21 a prouvé qu'il y avait un public à Marseille, un public très large pour votre musique.
De notre part, nous tenons à remercier tous les organisateurs de cette fête et nous espérons vous revoir très prochainement. Et nos remerciements surtout à M. Richard qui nous a entourés de tous les soins et de tous le respect qui est dû à des jeunes qui travaillent pour promouvoir une musique de qualité.
Si je peux me permettre, remerciement aussi à Ferdinand Richard pour vous avoir programmé, car c'était un grand moment.
Merci.
Merci à Radio Grenouille aussi
qui nous a donné l'occasion de nous exprimer en toute liberté.
À très bientôt.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.